Je n'aime pas trop l'expression qu'on utilise bonne année à tout bout de champ pendant quelques jours, quelques semaines. Je préfère dire que votre année soit bénie. Bonne année, ça veut dire hein, beaucoup et rien à la fois. Mais ce matin, on va voir un passage. On a terminé Zacharie la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui brûlaient d'impatience, vous pouvez trouver l'enregistrement en ligne. On ne va pas commencer aujourd'hui le prochain prophète, Malachie. On le verra la semaine prochaine. On commencera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se tourne dans le psaume numéro 1, numéro uno. C'est drôle parce que il est le premier à être listé parmi les psaumes, mais en même temps, c'est vraiment un psaume, un grand psaume, un psaume très court, écrit il y a près de 3000 ans, mais qui est toujours d'une actualité brûlante. Vous l'avez peut-être, sans doute, même lu, même peut-être étudié. On va voir ce qu'il nous dit. Ce que je vous souhaite à tous, c'est d'être abondamment bénis en cette nouvelle année. Et bien sûr, on a la bénédiction matérielle, la santé, la prospérité matérielle, mais encore plus important, c'est sans doute la prospérité spirituelle. Grandir dans notre relation avec Dieu, marcher avec lui jour après jour, être comme dans une démarche d'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est fondamental. Et on sait quelque part, surtout si on est chrétien, que c'est là vraiment la source du bonheur. Je ne suis pas un surfeur. J'aurais aimé être un surfeur, mais il n'y avait pas de vagues quand j'étais petit à Nice. Il n'y avait pas de surfing à Nice, de surf. Par contre, si on va du côté de Biarritz ou si on va en Californie, la première fois que j'étais en Californie, et j'ai vu comme des têtards qui étaient dans l'eau. En fait, c'était des surfeurs qui étaient en combinaison néoprène, parce que l'eau là-bas est toujours fraîche, très fraîche. Et ils attendaient à un endroit, ils se disputent les emplacements. Et en fait, j'ai appris que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent la vague. Et il y a un endroit bien défini, pour ceux qui ont fait du surf, ou ceux qui ont quelques notions, peut-être, ça sera évident pour vous, mais vous ne voulez pas vous mettre trop près de la plage, parce qu'à ce moment-là, la vague aura brisé et vous écrasera avec votre planche. Si vous êtes trop loin de l'endroit où la vague commence à se former, vous n'allez pas pouvoir la saisir et profiter de la glisse qui vous attend si vous êtes surfeur et si vous avez l'équipement. Et donc, il y a un endroit pour recevoir la bénédiction de la vague. Il faut se tenir à un bon endroit. Tout ça pour dire que le Seigneur aussi nous dit qu'il veut nous bénir, mais pour qu'on soit béni, il faut qu'on soit quelque part au bon endroit. Il faut qu'on soit là où il peut nous bénir. Dans le livre de Jude, dans Jude 21, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, donc c'est le chapitre 1 et le verset 21. Jude nous dit, c'est le petit livre juste avant l'Apocalypse, au verset 21, il nous dit de nous maintenir dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Donc il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. J'aime bien faire l'analogie que Surtout en ce moment qu'il commence à faire un peu froid pour les Niçois, quand on prend une douche bien chaude, je sais que je commence à respirer. On garde notre appartement assez frais. Je sais que pour certains, ce n'est pas le cas peut-être. Mais dès qu'on se met sous la douche chaude, nos muscles peuvent se relaxer, on peut respirer, ça fait du bien. Et puis s'il y a la savonnette qui tombe et qu'on va la chercher, on se remet sous le jet de d'eau chaude qui fait du bien. Et de la même façon, Dieu veut qu'on se tienne pour être au bénéfice de son amour. Il ne faut pas qu'on aille ramasser les savonnettes qui sont parties à droite, à gauche. Il faut rester dans sa volonté, il faut rester près de lui, et c'est essentiel. Donc cette année, restez sous la douche chaude de l'amour de Dieu, d'accord? Parce que cet amour de Dieu, il est formidable, il est infini, et il est là pour nous. On sait que Dieu veut nous bénir, il ne veut retenir aucun bienfait. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, par amour pour nous. J'ai deux fils, je vous aime, mais si on me demandait de sacrifier mes fils, par amour pour vous, je ne suis pas sûr que je le ferai. Et Tonio et Sébastien s'en réjouissent. Cette idée qu'il ne veut rien retenir, c'est dans Romains 8, 31, ou 32, on peut lire 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis, verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui ?» Si Dieu vous a donné son Fils, ne pensez pas qu'il y a des choses qu'il ne voudra pas vous donner. Il veut tout vous donner. Il veut vous bénir. Il veut vous bénir, il a, dans le même livre de Romains 12, on va lire les versets 1 et 2, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Dieu a pour vous, en cette nouvelle année, un plan qui est bon, qui est agréable, qui est parfait. Et ça me fait penser prophète Jérémie, qui nous disait dans Jérémie 29, 11, il disait ça à son peuple d'Israël, mais ça s'applique à nous aussi. « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Encore une fois, Dieu est prêt à bénir, mais il nous demande de nous tenir au bon emplacement pour bénir. Et en ce début d'année, je pense que le psaume 1 peut nous guider dans ce sens-là. Alors, Le livre des psaumes, il n'est pas trop difficile à trouver. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est quelle page dans la Bible que vous avez? Pardon? 629. Voilà. C'est le plus long livre de la Bible, donc vous pouvez le trouver assez facilement. Il est au milieu à peu près. Et on va lire ensemble ce premier psaume. Comme il est court, je vais vous demander de vous lever en sens de respect de cette parole où Dieu nous souhaite la bonne année. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Heureux l'homme. Heureux l'homme, c'est, on pourrait dire, oh combien est heureux l'homme qui, et ce qui suit nous décrit l'homme que Dieu peut bénir. C'est plus qu'un bonheur causé parce qu'on a gagné le loto ou parce qu'on a reçu une augmentation. C'est un profond bonheur, c'est une joie qui vient de l'Esprit Saint. Le bonheur, j'ai rien contre le bonheur, mais ce qui est plus important, c'est la joie. Parce que le bonheur, trop souvent, on le fait dépendre de nos circonstances. On peut être contrarié par des circonstances, mais quand on a la joie du Seigneur dans nos cœurs, c'est notre force, nous dit Néhémie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il parle, en fait, de deux personnes dans ce petit psaume. Il y a le juste et puis il y a le méchant. Il parle des méchants à partir du verset 4. Les trois premiers versets, il définit celui qui est juste devant Dieu, celui qui peut être béni abondamment. C'est le croyant engagé, le croyant sincère. Le méchant, c'est l'incroyant. Et dans le sens où c'est utilisé, ça ne veut pas dire nécessairement quelqu'un qui cherche toujours à faire le mal, mais c'est quelqu'un qui vit le méchant comme si Dieu n'existait pas. C'est celui qui pense qu'il ne doit rien à Dieu, que si les choses vont bien, c'est grâce à ses capacités, à sa ténacité, à ses talents, et que Dieu n'y est pour rien. C'est comme ça. Et il en est fier. Et il vit sans égard pour Dieu. Peut-être que vous vous souvenez d'une période dans votre vie où vous avez vécu comme ça. Moi, je me souviens très bien, avant de devenir chrétien, j'étais élevé catholique, mais je n'étais pas vraiment en relation avec Jésus-Christ. Et c'est à l'âge de 33 ans que j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Mais toutes ces années de jeunesse, je me souviens des fois des moments de grande solitude. On pouvait s'amuser avec les copains, avec garçons et filles, et c'était marrant, on avait la vie devant soi, Mais il y avait des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je là? Où cela mène-t-il? J'ai perdu mon père lorsque j'avais 19 ans et je me suis dit, oui, si Dieu existait, il ne permettrait pas de telles choses. Donc je me suis remis à un vide cosmique. Et je vous garantis qu'un vide cosmique, ce n'est pas très réconfortant. Et la plupart des gens qui vivent autour de nous, qui vivent autour de vous, ils n'y réfléchissent pas trop parce que ce vide cosmique les effraie. Mais le croyant, lui, il a cette assurance, il a cette joie. Et j'aimais beaucoup un commentaire qui disait qu'en fait, on va voir qu'il y a les hommes que Dieu bénit, les hommes qui bénissent les autres, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore bénis. Parce qu'on aurait tendance à dire, ah oui, ça c'est des méchants. On va prier des imprécations contre eux, qui disparaissent de la terre, que leurs dents tombent dans leur palais, comme le priait même David à un moment de sa carrière. Là, on ne sait pas qui est l'auteur de ce psaume. On ne sait pas si c'est David qui en a écrit la plupart. Peu importe, c'est l'Esprit Saint qui nous l'a donné et qui veut que nous y réfléchissions ce matin. Et l'idée que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui sont des méchants, des incroyants, ils sont quelque part en attente de cette bénédiction que Dieu veut leur donner. Dieu veut la bonne année pour tous les hommes. La bonne année et la bonne vie ici-bas, une vie abondante. Il veut aussi la vie éternelle, abondante pour l'éternité, qui, on le sait, est très longue, surtout vers la fin. Il y a cette désir pour tous les hommes, il ne fait pas de distinction. Jésus est mort pour tous les hommes, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, donc, ne fait... Et moi, au sens biblique, j'étais un méchant jusqu'à 33 ans. Je vivais sans égard pour Dieu. Dieu n'entrait pas dans l'équation. C'est une façon triste de vivre parce qu'on s'en remet à la chance. On s'en remet à l'horoscope. Et ça, cet horoscope dans notre société française, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour montrer aux hommes et aux femmes qui vous disent que vous êtes fous de croire en Dieu, que vous êtes moins fous qu'il n'y paraît. Parce que eux, ils vont prendre des décisions basées sur la position des étoiles lors de leur naissance. Alors je veux bien qu'il y ait des attractions qui soient plus ou moins fortes selon la position des astres. La lune crée la marée, mais de savoir qu'Alpha Centaure du je sais pas quel décan fait qu'aujourd'hui vous ne devriez pas aller au travail, c'est absolument irrationnel. Et dans tous les journaux de France et de Navarre, vous trouverez un horoscope. Même dans les gratuits, il y a l'horoscope. Dans CNews, il y a quelqu'un qui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une influence catholique, et il y a quelqu'un qui vous parle des saints et qui vous donne des versets. C'est mieux que les horoscopes de 20 minutes. On va regarder un peu. On voit 5 choses pour être en position d'être béni par Dieu. Dieu veut bénir, mais c'est à nous de nous mettre sous la douche chaude de son amour. Si on s'évade, si on s'écarte, il ne faut pas s'étonner que d'un seul coup, on commence à grelotter de solitude ou de malheur. Heureux l'homme, 5 choses, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et puis verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et 5e point, qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Ça, c'est une traduction dynamique, le mot, c'est vraiment celui qui ne marche pas en suivant le conseil des méchants. Il y a cette idée de marche, jour après jour. Est-ce que vous savez combien de pas vous faites dans une année ? Je m'y intéresse maintenant parce que c'est à peu près le seul exercice que je peux faire. Mes genoux ne me permettent plus de courir, mon épaule ne me permet plus trop de faire du vélo, donc je marche. Et dans vos portables, vous pouvez calculer le nombre de pas que vous faites, comme un podomètre à l'ancienne. Et c'est fou, en fait, et même sans avoir cherché à marcher beaucoup, l'an dernier, j'ai fait près de 3 millions de pas. 3 millions de pas. Maintenant que je m'y intéresse un peu plus sérieusement, j'espère arriver à peut-être à 4 millions de pas dans l'année. Tout ça pour dire que c'est progressif. C'est quelque chose qui se fait pas à pas. Nous, on aime les solutions instantanées. Si on écrit à « comme j'aime », il vous envoie pendant 8 jours des produits gratuits qui sont garantis vous faire perdre des kilos. C'est un produit que, je ne sais pas si vous n'avez pas la télé, tant mieux pour vous. C'est une publicité. Mais ils sont prêts à vous donner une semaine de produits à avaler pour vous faire maigrir. Donc au bout d'une semaine, vous allez fondre. Et puis là, ils vous arnaquent sans doute avec un abonnement pour 10 ans au plein tarif. Mais l'idée, c'est que c'est jour après jour qu'on forge notre caractère. C'est jour après jour qu'on nage vers l'endroit où on va pouvoir profiter de la vague si on est un surfeur. C'est jour après jour qu'on paye la facture de gaz ou d'électricité qui nous permet de bénéficier de cette eau chaude. Cette idée que ce n'est pas instantané, mais qu'il faut être sur la bonne voie. Et d'ailleurs, le mot de repentance, c'est ça, c'est de réaliser qu'on fait fausse route, qu'on est sur la mauvaise voie, et de faire consciemment, prendre conscience de ça, et de faire un changement volontaire qui se traduit par une nouvelle attitude, un nouveau comportement dans la vie envers Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas suivant le conseil des méchants. Encore une fois, ça veut dire ceux qui ignorent complètement Dieu. On pourrait dire conseil, c'est le mot qui veut dire recommandation, mais c'est aussi dans notre cas le mot qui veut dire influence. Est-ce que vous savez que vous êtes influencé dans votre vie ? On aimerait tous penser qu'on est non-conformiste, surtout les jeunes. Leurs parents étaient conformistes, mais nous, les jeunes, on est non-conformiste. Sauf qu'on a tous les mêmes vêtements, on écoute tous la même musique, on veut tous pas se faire marquer dans le groupe, on peut être ainsi influencé par nos pères. Il faut, pour reconnaître que c'est le conseil des méchants, il faut d'abord qu'on ait la capacité de discerner. Et c'est quelque chose aussi, c'est un don, le discernement qu'on peut demander à Dieu. Mais la plupart des gens, ils écoutent la dernière théorie qui explique leurs problèmes, et puis ils l'adoptent sans soucier de savoir qui en est l'auteur, qui est derrière cette théorie, et on est à la merci des modes. On va vous dire qu'il faut surtout pas manger d'œufs, sinon il y a trop de cholestérol, et puis 5 ans plus tard, il y aura une nouvelle étude qui montrera qu'au contraire, il en faut, sinon on va avoir d'autres problèmes, et on est là, ah bon, il faut partir par là. On ne sait pas d'où ça vient, mais on est prêt à se laisser influencer par ces choses. Et c'est dans tous les domaines. Encore une fois, ce psaume, ça a été écrit il y a 3000 ans. Aujourd'hui, on est influencé. À l'époque, il n'y avait pas, peut-être vous ne saviez pas, c'est peut-être une révélation pour certains, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de smartphone. n'y avait même pas de télé, même pas de radio. Et tout ce qu'on avait comme influence, c'était des influences face à face avec les gens. On racontait des histoires, mais c'était toujours en... Maintenant, on est dans l'influence virtuelle. On peut faire la révolution sur les réseaux sociaux. On n'a même pas besoin de sortir de chez soi. On peut faire la révolution en disant « Allez-y, les enfants, allez-y ». On est dans un monde où l'influence des médias, du monde virtuel, est sans précédent. Mais si on est prêt à suivre le conseil de ceux qui ne se réfèrent pas à Dieu, c'est ça que veut dire le mot méchant, alors Dieu ne va pas pouvoir nous bénir. Or, il ne va pas nous nécessairement nous maudire et nous faire passer par des épreuves encore plus terribles, mais on n'est pas au bon endroit pour être béni par lui. Deuxièmement, l'homme qui est béni par Dieu, celui qui est heureux, celui qui a une bonne année, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et là, c'est la voie, le chemin. C'est la route, c'est la direction qu'on suit. C'est très important de savoir où on marche. On ne se laisse pas influencer par ceux qui ne croient pas en Dieu. Et malheureusement, dans notre société, 95%, je dirais, des conseils de publicité, de politique, il n'y a aucune référence à Dieu. Et on ne veut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Premièrement, on est influencé par le conseil, on les suit, et puis on se trouve sur un chemin, et puis on commence à s'arrêter et à se laisser quelque part davantage influencer, davantage tenter, et on pêche. Jésus, dans Matthieu, disait « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le juste, celui qui croit en Dieu, fait confiance à Dieu, comme il lui dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Marcher avec Dieu, c'est pas se priver de bonheur, se priver de plaisir. On a souvent cette opinion un peu négative que la vie chrétienne, c'est pas drôle. C'est ce que voudrait nous faire croire Satan. Mais tu vas renoncer à ta liberté, alors que c'est lui qui veut garder le contrôle de nos vies. Tu veux... Et j'ai déjà partagé ça, mais on avait... Ma femme vient d'une famille nombreuse de 12 enfants. Et la plus jeune, il y a eu un mouvement de réveil dans la famille. Et la plus jeune, la moitié des plus anciens se sont entièrement consacrés à Dieu en allant à l'école biblique, en devenant missionnaires. Ça a été un réveil dans la famille. Et il y avait cette plus jeune sœur qui était bien tentée de venir à Dieu. Mais en même temps, elle nous disait, c'est facile pour vous, vous avez bien profité de votre jeunesse sans aller à l'église, mais moi, je n'ai pas encore vécu, donc je veux bien Dieu, mais pas tout de suite. Et elle était victime de cette idée que la vie chrétienne, c'est une vie triste, une vie qui ne procure pas de joie. Et dans les psaumes, l'idée du bon chemin, l'idée du chemin qui devient brillant jusqu'au plein midi, c'est essentiel. Encore une fois, la vie, c'est pas un marathon qu'on finit en 2 heures si on est un champion du monde, ou en 5 heures si on y arrive à peine, ou pas du tout, qu'on court même pas si on n'est pas en forme. C'est une marche quotidienne, c'est jour après jour. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les habitudes que je laisse prendre force dans ma vie au quotidien? Et donc, il y a cette idée que on doit, pour être béni encore une fois, pour que vous soyez béni en 2019, et quand il est dit « heureux l'homme », c'est le terme générique, homme et femme, donc il n'y a pas de sexisme là, c'est si vous voulez vraiment avoir une bonne année, ne suivez pas le conseil de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ne commencez pas à vous détendre en disant « Tiens, oui, ça serait peut-être marrant. » Parce que le péché, encore une fois, le péché est attrayant. Si le péché se révélait à nous tel qu'il est vraiment, on ne tomberait pas pour le péché. Si vous avez fait un peu de pêche à la ligne, vous savez que lorsque vous mettez un leurre dans l'eau, vous faites en sorte que l'hameçon de la perdition, l'hameçon de la douleur, du chagrin, du regret éternel, soit bien caché sous des aspects attrayants. Vous allez mettre maintenant un peu de silicone vert, fluo, qui bouge, comme si c'était un vrai animal à portée de mâchoire du poisson. Mon fils Sébastien a attrapé un brochet dans la Marne et je lui ai demandé « qu'est-ce que tu as utilisé comme leurre ?» C'était un truc, on ne voyait pas l'hameçon, mais ça avait l'air très attrayant. Et le péché, il est comme ça. Il y a du plaisir dans le péché, comme il y a du plaisir à faire du kayak à la fin de la rivière du Niagara. Mais tout de suite après, et donc, il faut avoir le discernement de voir que ce qui se passe autour de nous n'est pas quelque chose qui peut nous bénir. Qu'à la fin, c'est terrible. Le péché mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la mort. On pense qu'on peut se vivre comme on veut, dans le péché, dans les plaisirs, dans l'appât du gain, dans la recherche de la célébrité, du plaisir sexuel. En dehors du mariage, on peut faire des tas de choses, mais à la fin, c'est pas bon. Et puis, vous avez remarqué, c'est une progression. D'abord, on commence à suivre le conseil de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et puis, on s'arrête. Puis, on se sent de plus en plus à l'aise. Et à la fin, on peut s'asseoir. On peut s'installer en compagnie des moqueurs. S'installer en compagnie des moqueurs, c'est celui qui se moque de vous lorsque vous lui dites que vous allez au culte le dimanche matin. Ça existe encore, ça? Il y a encore des églises qui se réunissent? Je croyais que c'était juste pour les funérailles nationales. C'est ceux qui rigolent de Dieu. Si on s'associe, si... Alors c'est vrai que eux, ils se régalent à critiquer les chrétiens, et malheureusement, on leur donne beaucoup de raisons de se moquer de notre foi. Et il n'y a pas seulement les catholiques, il y a des scandales dans l'église protestante, il y a des pasteurs qui tombent attirés par la sexualité ou par le gain de l'argent. Et donc ces moqueurs vous diront que c'est n'importe quoi tout ça. Et c'est intéressant, le mot qui est traduit par moqueur, en hébreu moderne, c'est le terme qu'on utilise pour désigner un clown. Ça veut dire, ils prennent votre foi de la même façon. Ils considèrent que vous êtes bien gentil, ils sont même surpris, ils sont même déçus parce que vous aviez l'air d'être quelqu'un de bien, mais cette foi-là, c'est... Quand vous croyez encore, et la croix et tout ça, ils se moquent de vous. Et puis ils vous disent, en fin de compte, bon, mais enfin, si ça marche pour toi, moi je suis content pour toi. Ah, merci. Autrement dit, tu vis comme un imbécile heureux, mais si tu es content, moi ça ne me gêne pas trop. Et donc, il y a cette progression à éviter de ne pas se laisser d'abord influencé de façon païenne, de ne pas commencer à se dire, tiens, je vais m'arrêter et voir un peu ce que donne le péché. Et puis ne pas s'asseoir, ne pas s'installer, ne pas fréquenter des gens qui se moquent de la foi. Paul disait dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 16, 2 Corinthiens 6, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La Bible nous met en garde contre les mauvaises fréquentations et dans ce cas précis, dans les fréquentations avec des non-croyants. C'est des fois une situation difficile pour des jeunes gens qui disent « Je voudrais trouver un mari, une femme, mais franchement, si tu voyais les gars dans mon église, ou si tu voyais les filles dans mon église, je crois que je vais aller voir un peu en boîte de nuit à Nice, parce que vraiment, c'est nul. » Et c'est un raisonnement qui ne vient pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Alors après, je sais que chaque situation est délicate. Il y a des antécédents. Quand Nancy et moi, nous sommes devenus chrétiens, nous vivions dans le péché depuis des années. Et donc, je ne peux pas vous donner d'exemple en disant « Moi, je suis resté vierge jusqu'au mariage. » Mais il n'empêche que je suis convaincu que ça aurait été beaucoup mieux pour notre relation. On vivait en suivant le conseil du monde, on ne s'est plus en boîte de nuit, on a commencé à vivre ensemble, et puis là, on a failli se séparer beaucoup de fois. Parce que l'idée, c'était si tu m'énerves, j'en ai marre. Et c'est pas les vies qui manquent, surtout à Aix-en-Provence. Donc laisse-moi, fiche-moi la paix, et à Paris aussi. Et il y a des moments où on s'est séparés. On ne savait pas si on allait se remettre ensemble. Et Dieu merci, nous avons trouvé la foi à peu près en même temps, à quelques jours d'intervalle, dans la même église. Et ce qui nous permet d'être encore ensemble. Et je veux que vous sachiez que c'est une bénédiction que de vivre dans un mariage qui dure longtemps. Amen. Amen, les plus anciens là. C'est pas qu'on se prive de tas d'occasions. Au contraire, on trouve dans la relation qui dure, dans la permanence, des tas de joies qu'on ne peut pas soupçonner avant d'y participer. Y entrer. Et donc, les gens qu'on fréquente. Et là aussi, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, le célibat. Ça peut être quelque chose qui est très dur à vivre. Et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que je crois que Dieu veut me bénir ou pas ? Est-ce qu'il veut me bénir avec un partenaire pour la vie ? Un époux ou une épouse ? Est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que, entre guillemets, je prends les choses en main et je vais voir dans le monde qu'est-ce qu'on peut trouver ? Encore une fois, Dieu veut votre bonheur et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous nous connaissons. C'est lui qui nous a fait. Il sait nos aspirations, il sait chercher Dieu d'abord. Il vous donnera tout le reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors si vous êtes dans cette situation, vous êtes dans la souffrance du célibat, n'allez pas au Club Med. Partez en vacances avec un groupe de jeunes chrétiens peut-être. Allez à des conférences. Je ne vais pas demander la permission, mais un de mes fils a rencontré sa femme dans une conférence chrétienne. Et il est vraiment béni. Cherchez à plaire à Dieu. Et le verset 2 nous dit des caractéristiques positives. Là, on a vu des choses négatives. Fais pas ci, fais pas ça. Moi aussi, on m'a dit ça. Moi aussi, j'en suis passé par là. C'était une chanson de Jacques Dutronc. Mais sérieusement, c'est des bons conseils. Il nous dit d'abord ce que l'homme que Dieu veut bénir ne doit pas faire. Ne pas marcher, s'arrêter, s'asseoir. Et ça, c'est la progression du péché typique. Au commencement, la tentation devient un peu forte. On succombe à la tentation. Puis la deuxième fois, c'est un peu moins difficile de succomber à la tentation. Puis finalement, ça devient un style de vie, ça devient une destinée. Et on arrive au dernier mot du psaume, à la ruine, à la destruction. Le verset 2 nous donne des choses positives. Comment Dieu bénit, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est toute la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. La méditation biblique, ce n'est pas la méditation transcendantale ou la méditation de l'oriental, où là on essaye de vider son esprit complètement. On essaie de plus penser à rien, d'être complètement vide. Et quand on sait que la Bible nous informe que lorsque il n'y a plus rien dans notre esprit, il y a des choses mauvaises qui peuvent venir s'y installer. Non, la méditation chrétienne, c'est de se remplir l'esprit, les pensées des choses de Dieu. C'est de pouvoir lire la parole, de la méditer, donc d'y réfléchir. Méditer, c'est peser, réfléchir, penser à. C'est examiner soigneusement les mots, les phrases, pour dire qu'est-ce qu'elle veut dire dans ma vie, dans ma destinée. C'est essentiel. Et ce qui est remarquable, et je l'ai découvert en faisant cette étude, en fait, c'est qu'il y a le plaisir et la méditation de la parole vont ensemble. Je vous encourage bien sûr à lire la Bible, alors à votre rythme. On aime bien la lire, moi j'aime bien essayer de la lire toute la Bible en un an. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de choses à lire et des fois quand on est pressé par le temps, on peut lire un peu machinalement, surtout les généalogies, alors qu'il peut y avoir des choses intéressantes à retrouver. Mais il est bon aussi de prendre un verset et puis d'y réfléchir, de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Regardez un peu les mots maintenant, si vous avez besoin d'application. Le mardi matin, la réunion de prière des hommes, on décide à l'avance de quelques versets sur un thème qu'on va étudier. Et chacun de nous, on n'est pas nombreux en ce moment, prend un verset et regarde un peu les mots qui sont dedans pour voir s'il y a... Et on parle, on réfléchit, on médite ensemble et on prie après. Mais c'est essentiel d'avoir cette réflexion sur la parole. Et le psaume qui parle le mieux de la parole de Dieu, c'est le passage qui parle le mieux, c'est le psaume 119. Et j'étais frappé de du fait que méditation de la parole va avec le bonheur de lire la parole. Les deux sont indissociables. J'avais jamais tellement fait attention à ça. C'est un peu comme quand vous mangez un repas. Si vous êtes pressé, vous allez tout engloutir en quelques minutes. Ça va être, vous n'allez même rien ressentir. Vos papilles vont dire non, ça va trop vite, je laisse tomber. C'est comme ça qu'on mange des cochonneries, on avale des chips, des machins comme ça. Mais là, si on prend le temps de mâcher, de rechercher les goûts, on va apprécier vraiment la nourriture. Et là, c'est pareil avec la parole. Versets 15 et 16 de psaume 119. « Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Méditation, délice. Versets 23 et 24. « Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. » Verset 24, « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillers, mes conseillères. » Verset 47-48, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. » Et vous serez surpris si vous... Et c'est pour ça que c'est bien de commencer la journée en lisant un passage de la Bible, que ce soit même juste quelques versets, et puis d'y réfléchir dans la journée et se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, vous verrez que vous allez trouver des choses dont personne n'a encore parlé dans aucun commentaire. Et des choses qui sont vraies pour vous, mais qui sont vraies que vous pouvez partager avec d'autres. Méditer. Le mot de méditation, c'est comme le mot de ruminer. Alors, ruminer, c'est... Ça n'a pas très bonne presse parce que généralement on rumine la colère. Mais le mot de méditer, c'est ce mot aussi de répéter à voix basse. Je fais les délices de ta parole quand je médite dessus. Délices, parole, parole, délices. Méditation. Y penser. Et ça fait penser justement aux ruminants. Les ruminants, les vaches, les ovins. Ils ont un estomac qui est composé de quatre poches. Il y a l'estomac, et avant l'estomac, il y a trois pré-estomacs qui sont des poches où il se passe une fermentation de l'herbe, des produits qu'ils avalent. Fermentation dit gaz, c'est pour ça qu'il y a la pollution au méthane dans les couches de l'ozone. Il y a trois pré-estomacs. La panse, le bonnet et le feuillet. Et puis l'estomac lui-même, c'est la caillette, ou en latin, si vous voulez paraître savant, la caillette, c'est l'abomasum. La panse, c'est le rumen, le bonnet, c'est le réticulum, et le feuillet, c'est l'omasum. L'omasum. Et la nourriture passe d'une poche à l'autre. Elles prennent leur temps. Elles ne mangent pas de hamburger qu'elles avalent en un instant. Elle médite et les nutriments, les choses nutritives peuvent venir les enrichir. Et de la même façon, si vous trouvez votre plaisir, si vous méditez la parole, vous allez vous enrichir. Votre personne va devenir plus forte contre l'adversité, plus forte pour l'amour des autres, plus forte donnez, partagez ce que vous connaissez de Dieu. J'aimais bien le verset de Jérémie, le Jérémie 15, 16. Tes paroles se sont présentés à moi et je les ai dévorés. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Les paroles de Dieu, c'est comme un trésor. Et il n'y a pas de mal à être vorace de la parole de Dieu. J'apprécie beaucoup les jeunes croyants qui n'ont pas assez des études bibliques qu'on présente, qui voudraient demandent si on ne peut pas en faire une autre. qui ont tellement soif d'apprendre. C'est bon d'être vorace dans ce sens-là. C'est bon d'être dévoré la parole de Dieu. Parce que, voilà la façon dont il va être béni, cet homme, vous, en 2019, c'est vous allez ressembler à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en sa saison et son feuillage qui ne flétrit pas et tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est intéressant parce que on pourrait penser que c'est l'auteur de ce psaume qui est un peu bizarre, mais c'est le conseil qu'on trouve encore une fois dans toute la Bible. Josué 1,8 nous disait fortifie-toi, verset 7, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Il y a de la vitalité qui est promise. On va voir que pour les méchants, au contraire, eux, ils vont ressembler à de la paille. Ils vont ressembler à l'écorce du grain de blé ou de la paille qui roule sans amasser mousse. Si vous voulez avoir une vitalité, être bien dans votre être, alors il faut faire ces choses. Vous serez comme un arbre, pas seulement un arbre, il y aura la sécurité parce que vous serez planté. On voit des fois des tempêtes et on voit des arbres qui tombent sur les maisons ou dans les parcs publics. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de profondeur. Les racines étaient superficielles. Si vous êtes dans les conditions 1 et 2, les versets 1 et 2, alors vous êtes planté, bien planté, implanté. Et vous allez avoir les capacités, vous allez avoir les ressources. C'est comme si vous aviez un cours d'eau qui vous irrigue et qui vous donne la force. L'eau, c'est intéressant. Dans la Bible, il y a plusieurs images. L'eau à boire, c'est une image du Saint-Esprit. Lorsque Jésus disait, celui qui me suit, il aura des eaux qui pourront désaltérer ceux qui sont autour de lui. C'est l'Esprit Saint dont il parlait, il nous dit. L'eau pour nous laver, c'est l'eau de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, Paul parle de laver son épouse avec de l'eau de la parole. La soif d'eau, c'est la soif pour Dieu. La rivière, c'est toujours un symbole de la provision de Dieu, de ses bénédictions spirituelles. Et un verset qui m'a toujours fasciné, que vous pouvez méditer, psaume 65, 10, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors vous pouvez y réfléchir, mais pour moi, ça veut dire que même ce qui paraît insignifiant, si ça vient de Dieu, c'est riche, il y a plein d'eau. Et donc cette eau, c'est ça qui va vous alimenter, les racines, qui va faire que vous allez être bien solide. Et puis vous allez bénir ceux qui sont autour de vous. Vous êtes bénis pour bénir. Bonne année. Ah oui, la santé surtout. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pense à une bonne année pour bénir d'autres personnes? On est fait pour être des canaux, pour faire passer, pas pour accumuler. Vous connaissez l'histoire, la mer morte, elle accumule l'eau du Jourdain, elle est morte. Le lac de Tibériade, la mer de Galilée, elle laisse passer le courant pour le redonner plus bas au Jourdain. On est heureux que lorsqu'on rend les autres heureux. Si on veut grossir et être malade, et on garde tout pour soi. Et puis, cet homme, cette femme, il va donner son fruit. Et là, les fruits, ça peut être les fruits du Saint-Esprit, ça peut être des âmes qu'on amène au Seigneur, ça peut être des tas de choses, mais c'est des bons fruits pour Dieu. du fruit qui demeure, comme il est dit dans Jean 15. Une chose à noter, c'est qu'il donne son fruit en sa saison. Au départ, j'ai oublié de vous signaler qu'il y avait deux moments pour méditer la parole de Dieu. On n'a pas souligné ça. Il n'y a que deux moments, en fait. C'est facile. C'est le jour et la nuit. Imprégnez-vous de la parole de Dieu pour que votre subconscient puisse continuer à réfléchir. Là, le fruit n'arrive pas tout le temps. Il y a des périodes d'hibernation. En ce moment, il fait froid. Mais c'est bien parce que ça tue les moustiques pour l'été prochain. Yeah ! Et puis, ça prend du temps. C'est important d'avoir la patience. Savoir que ça va venir, mais qu'il ne faut pas s'impatienter. Et puis, finalement, il y a la verdeur. Le feuillage ne se flétrit pas. Vous êtes toujours plein d'énergie, plein de force. Tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Alors, ça ne veut pas dire que toute entreprise dans laquelle vous vous lancez, mais si vous avez suivi ces choses prérequises, Dieu va vous bénir avec le succès dans vos entreprises. Et puis le contraste est terrible. Le méchant, celui qui ne croit pas en Dieu, celui que nous devons amener à Dieu, celui pour lequel nous devons donner de notre temps, de notre énergie, de nos ressources. Celui-là, pour l'instant, au contraire, il n'a rien de tout ça. Il ressemble à de la paille que le vent disperse. Sa vie ne compte pour rien. Souvent, on envie ces méchants parce qu'on a l'impression qu'ils sont riches, beaux, jeunes et bien portants, qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais souvent, c'est une grande solitude. On voit ces rockstars qui se suicident parce qu'il n'y a que de la paille à l'intérieur. Et il est dit, verset 5, voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. On va tous avoir un jugement. Pour le chrétien, ce jugement a déjà été passé sur Jésus-Christ. Il y aura un jugement du siège de Christ, où ce sera des récompenses qui seront attribuées. Mais c'est ce qui est terrible, c'est pour ceux qui se retrouvent devant Dieu en l'ayant toujours moqué, en l'ayant toujours ignoré, en ayant prétendu qu'il n'existait pas, ils n'en vont pas résister. Eux, lors du jugement. Et les pécheurs dans l'assemblée des justes, ça fait allusion à ces gens qui ne croient pas en Dieu et qui insistent et qui continuent à pécher. Ils n'ont pas leur place dans l'assemblée des justes devant Dieu. Et l'Éternel, il connaît la voie des justes. C'est une connaissance intrinsèque. Tout ça, ça s'applique parfaitement, bien sûr, à Jésus-Christ. Il connaît par expérience la voie des justes. C'est pas facile, c'est long, mais la voie des méchants, elle est encore pire parce qu'elle mène à la ruine. Et donc c'est intéressant, le verset commence par heureux ou bénédiction au pluriel, parce qu'une bénédiction ne vient jamais seule. Quand vous suivez Dieu, ces bénédictions sont abondantes, même ici-bas. Il veut pour nous une vie abondante, pas juste une bénédiction. Ah ben, je t'ai donné un travail, maintenant tant pis si tu n'as pas la santé. Non, il peut bénir et la santé peut nous être prise ou on vit dans un monde qui est affecté par le péché. Ça ne veut pas dire que Dieu cesse de nous aimer. Mais on commence par bienheureux, par bonheur et on arrive à la fin à ruine si on ne se met pas dans une position où Dieu peut nous bénir comme il le souhaite. Il ne peut pas aller contre les lois divines, les lois spirituelles. On ne peut pas continuer à vivre sans égard pour Dieu dans le péché et lui demander de temps en temps de nous bénir. Je vais terminer en lisant une autre version de ce psaume, qui peut-être remettra quelques idées en place. Mais heureux, bienheureux est l'homme qui ne cherche pas conseil auprès des gens en révolte, qui ne s'en va pas flâner sur le chemin, le sentier des pêcheurs, qui ne va pas s'installer en compagnie des moqueurs. Heureux, bienheureux celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur, et s'imprègne de ce livre nuit et jour, jour et nuit. Il est ferme comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu, et sans cesse sa ramure, sans se faner, refleurit. Tout ce qu'il a entrepris, il le réussit. Tels ne sont pas les méchants. Ils sont pareils à la balle, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Nul pécheur ne paraîtra au rassemblement des justes, car le Seigneur prend en charge la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants est un chemin sans issue. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, elle est si riche, elle est permanente. Ces choses écrites par un psalmiste il y a 3000 ans s'appliquent encore de façon hyper pertinente pour nous aujourd'hui, en 2019. Et Seigneur, merci parce que tu veux tous nous bénir. Tu veux aussi que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Alors Seigneur, c'est ma prière qu'en cette année que tu nous donnes, cette nouvelle année qui commence, tu nous aides à faire ce que tu nous demandes, à ne pas suivre le conseil des méchants, à ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, à ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais à trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et à la méditer jour et nuit, nuit et jour. Sois béni, Seigneur, pour ton amour pour nous. Tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur. Aide-nous à humblement l'accepter, à être patient, à savoir que tu n'as que de bons plans pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.